Bonjour Pierre-Rosan Vallon.
Bonjour Caroline Brouet.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur au Collège de France, spécialiste de l'histoire politique moderne et contemporaine de la France, auteur de très nombreux ouvrages consacrés à la démocratie, à la vie politique française, à la question sociale. Le dernier est somme toute un livre un peu plus personnel. Vous y revenez sur notre histoire intellectuelle et politique de 1968 à 2018. C'est un livre qui a été édité au Seuil et qui a reçu en décembre dernier le prix Jean Zay. Vous dites, Pierre-Rosan Vallon, que le rôle d'un intellectuel est de comprendre le moment historique où il vit et les tâches qui correspondent à ce moment. Alors j'ai envie de vous poser cette première question. Dans quel moment sommes-nous en France, disons, pour commencer?
Nous sommes dans un double moment. On peut regarder avec deux focales, comme souvent. On peut regarder avec une focale courte. La focale courte, c'est évidemment l'épisode des Gilets jaunes. La focale courte, c'est le moment, je dirais, du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est la situation de la société française. Et puis la focale plus longue, c'est de voir que ce qui apparaît aujourd'hui est tout de même aussi le résultat accumulé de toute une série, je dirais, d'éléments de crise démocratique, d'épuisement de la performance démocratique de l'élection dans nos sociétés, d'une situation d'inégalité, d'une situation aussi sociale qui ne peut plus simplement être comprise, ça je crois que c'est décisif, avec les critères traditionnels. Avant, la question sociale, c'était le rapport entre le monde populaire ouvrier et puis le monde des cadres. On parlait beaucoup des exclus comme un des critères décisifs. Et on voit aujourd'hui qu'il faut analyser aussi la société autrement, parce qu'on voit bien que dans le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, ça n'est pas le mouvement des exclus, ça n'est pas le mouvement des personnes au minimum vieillesse, au RSA, ou des personnes d'allocation adultes handicapés, qui sont 4,5 millions tout de même. C'est un mouvement social des petits, de ceux qui se sentent oubliés, et de ceux aussi pour lesquels ça n'est pas simplement le critère du revenu qui permet de rendre compte de la situation. Mais c'est la situation du logement, c'est la distance au lieu de travail, ce sont les accidents de la vie. Je crois que le moment présent ne nous oblige pas simplement à regarder immédiatement ce qui se passe, mais aussi à changer nos lunettes. C'est-à-dire à comprendre que la société française a évolué comme d'autres sociétés. Et donc il faut également d'autres concept pour l'analyser. Et trop souvent, on parle des inégalités comme le fait majeur dans nos sociétés. Certainement qu'il l'est. Mais il y a bien d'autres phénomènes qu'il faut aussi éclairer. Et pour cela, on voit bien par exemple que si on considère que la question de la dignité, du sentiment de ne pas être écouté, quelque chose d'important dans la période présente, il faudrait des indicateurs, si je puis dire, de la cécité des pouvoirs. Il faudrait des indicateurs aussi du manque d'écoute. Et c'est cela qui est en cause aujourd'hui. Et je crois que une des fonctions des sciences sociales dans la période actuelle, c'est justement d'essayer de montrer qu'il faut chausser d'autres lunettes également pour comprendre la société française.
Alors on va essayer de chausser vos lunettes à vous, Pierre-Rosan Vallon. Est-ce que vous diriez qu'avec les Gilets jaunes, on assiste à une tentative d'émancipation ou bien d'ailleurs à ce que vous décrivez, vous, dans votre dernier ouvrage, comme un individualisme de singularité? Et bien entendu, il va falloir définir ce concept.
Je crois qu'on ne peut pas se contenter de parler des Gilets jaunes, justement, simplement comme d'un mouvement.
Pour l'instant, c'est une révolte.
Oui, bien sûr, parce qu'un mouvement, ça voudrait dire une forme d'unité, ça voudrait dire une canalisation des revendications, ça voudrait dire tout de même une direction qui est donnée, une force qui est imprimée et qui est organisée. La révolte, au contraire, elle est multiforme. Et toute l'histoire sociale, elle a souvent été celle du passage de révolte. On n'est pas pris en considération, on en a assez, la vie est difficile, à une mise en forme de cette révolte. Et pour l'instant, nous n'en sommes pas là dans cette
pourtant,
mise en
forme. Pourtant, on en est à un acte 8. Alors, qu'est-ce qui manque aux Gilets jaunes pour que la révolte devienne un mouvement social, pour éviter que la colère qui s'exprime se transforme en haine qu'on commence à entendre dire?
Eh bien, ce qui se passe, je crois, c'est qu'il y a aussi une transformation des enjeux qui apparaissent dominants. La première séquence, si je puis dire, de la révolte des Gilets jaunes a d'abord été une séquence que l'on peut dire classiquement sociale. On a entendu parler des problèmes de petits salaires. On a entendu parler des problèmes de difficultés de transport. On a entendu parler de tout ce qui fait la difficulté de la vie quotidienne, ce qu'on a appelé le reste à vivre. C'est donc non pas simplement des gens qui disent « mais ne regardez pas simplement notre situation à partir du revenu, mais regardez ce qui nous reste à vivre » et très souvent les dépenses contraintes de transport, d'assurance, de cantine scolaire, c'était très présent par exemple cette question-là, eh bien souvent ont augmenté davantage. Et donc les mesures statistiques de l'augmentation du coût de la vie ne reflètent pas toujours ce que nous vivons. Donc on était dans une séquence de questions sociales à laquelle se mêlaient d'autres éléments. Là, on est...
C'était ça l'individualisme de singularité, c'est-à-dire cette envie d'avoir chacun sa vie aussi bien que celle de son voisin.
L'individualisme de singularité, il correspond à deux choses. Une première chose, c'est de dire que on doit être pris en compte soi-même. On n'est pas simplement un membre d'un groupe, mais on est chacun soi-même avec ses difficultés, ses particularités. Et au fond, la démocratie, c'est cela. La démocratie, c'est donner une voix à chacun. Mais pas simplement une voix tous les 5 ans. Ça veut dire c'est donner une présence dans la vie sociale à chacun. C'est faire que, quand on parle des invisibles, ben c'est bien ça, c'est qu'il y a un droit, si je puis dire, à être représenté, c'est-à-dire un droit à voir ce qu'on vit, être présent dans le débat public. Or, il est vrai qu'il y avait la vie de beaucoup de citoyens qui n'étaient pas présents dans le débat public, qui étaient en quelque sorte gommés, non aperçus, dans les coins. Et il y avait cette demande d'être pris en compte, d'exister aux yeux du reste de la société. Et ça, c'est une définition forte de la représentation. C'est pas simplement le bulletin de vote et la délégation, c'est exister dans la société, être reconnu comme quelqu'un dont les problèmes et les réalités sont pris en compte.
Mais vous parliez, Pierre Rosanvallon, tout à l'heure d'une crise politique ou d'une crise démocratique. C'est précisément ce qui fait dire à quelqu'un comme le philosophe Gérard Brasse qu'il ne s'agit pas là pour lui d'une crise de la démocratie, mais bien plutôt d'une manifestation d'une vitalité démocratique, là où la crise serait plutôt celle de la représentation. Mais vitalité démocratique parce que élan, parce que revendication positive, mais effectivement, gros problème de représentation.
Bon, qu'il y ait un problème de représentation, ça c'est tout à fait clair, nous venons de l'évoquer, qu'il y ait des éléments d'une crise, une vitalité démocratique, oui, en ce sens qu'il y a une revendication démocratique. Mais crise de la démocratie, parce que les solutions ne sont pas véritablement là. C'est ça la question. On voit bien aujourd'hui qu'il y a ce déclin de la performance démocratique de l'élection. On voit bien qu'il ne faut pas simplement être le citoyen qui existe tous les 4 ans ou tous les 5 ans, mais que mettre à la place. Or, là, le seul mot d'ordre qui ressort, c'est celui du référendum d'initiative citoyenne, qui est à la fois vague et généreux, si je puis dire, mais qui ne peut pas sûrement suffire à reconstruire une vision de la démocratie. Après tout, la démocratie, c'est bien sûr l'expression du peuple, et on peut dire que le référendum est une forme d'expression privilégiée et souveraine, mais ça doit être une forme d'expression solennelle, et donc peu fréquente relativement, et ça doit être une forme d'expression qui est bien préparée. Nous voyons partout dans le monde aujourd'hui des référendums décidés et mis en place à la va-vite ont créé des catastrophes. Regardons le Brexit en Grande-Bretagne. Et quand le référendum est tellement solennel qu'on ne peut pas revenir sur lui. Et donc, il doit véritablement être pensé et être un référendum sur lequel le sens du vote est tout à fait clair et dans lequel les conséquences du vote, ça c'est un des grands problèmes du référendum, c'est que le référendum doit inclure en quelque sorte la gestion de ses conséquences. Vous savez, en Suisse, Monsieur Blocher, qui est le chef de l'extrême droite, a développé de nombreuses initiatives citoyennes pour lancer des référendums. Il y a eu un référendum notamment sur l'arrêt de l'immigration, le rejet des étrangers. Mais Monsieur Blocher a oublié qu'il y a des traités frontaliers avec des pays comme l'Italie et la France, qu'il y a une obligation pour la Suisse d'assurer la liberté de circulation à cause de son rapport en Europe. Donc on fait voter, mais on ne peut pas l'appliquer parce que ce vote contredit tout un ensemble de normes qui ont été acceptées par le pays. Donc, il faut aujourd'hui, dans la période présente, puisque toute une partie de la réflexion et de la proposition se condense sur cette question du référendum, bien développer une vision à la fois lucide et critique du référendum en démocratie.
Pierre Rosanvallon, puisque le référendum d'initiative citoyenne pose question et prête d'ailleurs à débat, il se trouve que justement le gouvernement met en place un grand débat national. Alors le RIC n'est pas compris dedans, mais le thème de la démocratie et de la citoyenneté est un des quatre grands thèmes arrêtés à côté de la transition écologique, de la fiscalité et des dépenses publiques et l'organisation de l'État et des services publics. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'attendre de l'organisation d'un grand débat national aujourd'hui?
Nous n'en savons pas grand-chose dans quel sens il sera organisé. Mais en tout cas, ce qu'il est sûr, c'est qu'il faut saisir le moment présent pour que ce soit un moment d'intense débat public. Car après tout, il y aura certainement des formes de canalisation et d'organisation officielle, entre guillemets. Mais après tout, la vie de la démocratie, c'est aussi celle des citoyens qui publient, des médias qui s'expriment. Et je crois qu'il ne faudrait pas voir ce moment de discussion comme simplement celui du moment qui va être organisé, par exemple, autour de ce qui va être probablement confié à Chantal Joanneau. C'est aussi beaucoup plus large. Et je crois qu'il y a besoin de discuter de la démocratie. Parce que la démocratie, nous voyons bien ce qui ne va pas bien, mais nous ne sommes pas sûrs des directions dans lesquelles il faut aller pour la faire progresser.
D'autant que vous disiez tout à l'heure, finalement, la démocratie, c'est aussi donner, en tous les cas représentative, c'est aussi donner une voix à chacun. Peut-être que la frontière est ténue aujourd'hui entre ce besoin de donner une voix à chacun et ce besoin d'avoir, de prendre la parole, d'empowerment d'une certaine façon, c'est-à-dire d'arriver à trouver une voie médiane entre cette démocratie représentative et une forme de démocratie directe. Malgré tout, j'aimerais vous entendre sur ce vivre ensemble, qui est un concept un peu galvaudé. En plus, on est à deux jours de l'anniversaire des attentats du 7 janvier 2015, donc le vivre ensemble, on risque d'en entendre à nouveau beaucoup parler. À propos de cette crise de société que nous traverserions, où vous situez-vous, Pierre Rosanvallon, entre ceux qui pensent que on ne fait plus société au sens où s'exprime justement une multiplicité d'individus, ce mouvement des Gilets jaunes est un mouvement composite et hétérogène, qui exprime et revendique une amélioration pour la vie de chacun. Et puis ceux qui pensent que, au contraire, non, c'est faux. Les Gilets jaunes permettent de renouer avec le sens du collectif, de retrouver des valeurs de solidarité. On a vu les deux interprétations concomitantes. Est-ce que se faire société et se faire démocratie peuvent se rejoindre?
C'est, d'un certain point de vue, je dirais que c'est exactement la même chose. La démocratie n'est pas simplement un ensemble de procédures. La démocratie est une forme de société. La démocratie définit une manière d'être égaux, de vivre en égaux. Après tout, la démocratie, ce n'est pas simplement la souveraineté du peuple, c'est la reconnaissance d'une société qui doit être une société des égaux. Alors, quelles conséquences donner à cet idéal de société des égaux? Ça veut dire qu'il doit y avoir de la redistribution. Ça veut dire qu'il doit y avoir l'État-providence. Ça veut dire qu'il doit y avoir de plus d'égalité des chances. Ça veut dire qu'il faut lutter contre les séparatismes. Et on peut dire que le séparatisme des très riches est un problème très grave dans nos sociétés contemporaines. Donc, je ne sépare pas l'idéal démocratique de cet idéal. Mais en même temps, l'idéal démocratique, c'est de faire en sorte que chacun puisse être plus autonome. L'émancipation, c'est d'abord cela. C'est l'autonomie des personnes. Mais l'autonomie des personnes, ça ne veut pas dire les individus qui vivent chacun dans son coin. C'est vivre en individus libres et égaux. Après tout, si on prend l'exemple du rapport, qui est très discuté, du rapport historiquement depuis 30 ans dans nos sociétés, du rapport entre hommes et femmes. Faire société entre hommes et femmes, ça n'est pas simplement vivre chacun dans son coin, c'est trouver une façon de vivre en égaux. C'est une définition que donnait John Stuart Mill de l'égalité entre hommes et femmes. Il disait, c'est vivre en égaux. Et bien, c'est cela qu'il faut apprendre. Et donc, plus de singularité, c'est aussi un appel à vivre en égaux de façon plus forte. Ça n'est pas chacun vivre dans son coin, c'est au contraire une façon supérieure de considérer une société dans laquelle chacun apporte quelque chose par sa singularité à la collectivité. Après tout, Marx avait cette formule dans les critiques de la fondation de l'économie politique. Il disait, les Grundrisseux, il disait « L'idéal d'émancipation, c'est que chacun puisse devenir l'artiste de sa propre vie et que nous formions une société d'artistes. » Après tout, à France Culture, ça devrait dire quelque chose, cette idée-là,
non ? Il est temps d'apprendre ça en 2019 aussi. Il est 8h30 sur France Culture.
France Culture, les matins du samedi. Caroline Bourré.
8h30 sur France Culture, c'est l'heure de la revue de presse de Natacha Triou. Bonjour Natacha.
Bonjour Caroline.
Des articles à lire dans la presse ce matin, d'autres plus fouillés que l'on peut lire ce week-end. Alors de la presse du jour, vous avez retenu les 4 premières pages de Libération consacrées précisément à l'acte 8 des Gilets jaunes, mais avec un angle bien précis.
Oui, plus exactement sur le divorce des Gilets jaunes avec les médias traditionnels, avec ce titre très Libération, « Je te BFM, moi non plus ». Accompagné de photos dignes de guérilla, le journal décortique les raisons de cette guerre des médias. C'est tout le paradoxe, hein. Aucun mouvement n'a connu une telle couverture télévisuelle, mais pourtant, la défiance. Les médias sont à la botte du pouvoir et l'argumentaire classique, ce qui a conduit à l'apparition d'espaces médiatiques alternatifs tels que Facebook Live ou YouTube. L'article dégage un point intéressant. Dans la rue, on a beaucoup entendu « la police avec nous ». Mais pour les journalistes, autre slogan, « journaliste collabo ». C'est que le métier est considéré comme appartenant à une haute classe sociale. Paradoxe encore, car comme le précise Vincent Glade, la profession est de plus en plus précaire. En fait, les médias sont haïs pour les mêmes raisons que les politiques, je cite, c'est une crise de la représentativité.
À la direction, les États-Unis, maintenant le shutdown se poursuit, les élus démocrates issus des midterms prennent leurs fonctions et deux grandes personnalités sont dans la presse. Ce matin, la première, Russell Banks.
Russell Banks, immense figure de la littérature américaine et son long entretien dans la revue America, la revue qui vient tout juste de sortir, l'interview dresse le portrait de ce romancier engagé, mais aussi celui de l'Amérique de Trump. Depuis 40 ans, Russell Banks raconte les marginaux, les ouvriers, les SDF et les rêves avortés des classes populaires. Le rêve américain, justement. Pour lui, le saccage du rêve américain commence avec les années 70. L'éducation, les frais d'université deviennent si chers que les classes moyennes inférieures ne peuvent plus y accéder. La récession de 2008 continue à d'esquinter cet American Dream, profitant largement à l'élection de Donald Trump. Trump marque la fin de la démocratie libérale aux États-Unis. C'est le début d'une autre ère, celle des oligarques, dit-il. Grand-parent d'un petit-fils noir, il revient plusieurs fois sur une question fondamentale aux États-Unis, la question raciale. Il fustige la politique migratoire du pays. L'Amérique s'est toujours revitalisée économiquement, mais aussi culturellement par l'immigration. Mais malgré son regard acerbe, Russell Banks concède « Nous vivons la période la plus intéressante de l'histoire, la plus imprévisible que l'Amérique ait connue ».
Deuxième personnalité emblématique, la professeure de sciences politiques américaine Wendy Brown.
La revue a aussi rediffusé son entretien avec Christian Salmon du 13 septembre dernier et il s'intitule « Le néolibéralisme sape la démocratie ». La politique est corrompue par l'argent et le marché, ça c'est une rengaine assez commune, sauf que là, la philosophe va plus loin. Selon elle, le néolibéralisme menace les fondements de la démocratie. Pas seulement parce qu'il encourage les privatisations, l'intensification des inégalités ou la connivence entre le pouvoir et les capitaux, mais parce que tous les aspects de la politique sont reconfigurés sous un prisme économique, à savoir l'efficacité, le rendement. En d'autres termes, cette économisation du tout grève le régime démocratique. Pour elle, le rêve néolibéral tourne au cauchemar. Exemple, Donald Trump. Pour lui, bien gouverner, c'est faire de bonnes affaires. Il dirige ce pays comme une entreprise. Je cite, « La justice, la représentation, la coopération, le droit, l'équité, les principes universels, tous ces mots sont absents du lexique de Trump. Pour Wendy Brown, les principes des affaires deviennent les seuls principes de gouvernement et pour cette raison, la démocratie est en danger.
Très bien choisi pour notre invité cet article, Natacha Triou, Pierre Rosanvallon, le néolibéralisme menace les fondements de la démocratie ?
Il y a toujours eu, le néolibéralisme, le terme est très général, mais il y a toujours eu une tension entre libéralisme et démocratie. Puisque le libéralisme veut valoriser l'initiative individuelle et la démocratie veut aussi construire quelque chose de collectif. Donc il y a toujours cette tension. Mais aujourd'hui, à trop parler, à trop rassembler toutes les questions sous le vocable de néolibéralisme, on finit par se rendre impuissant pour les analyser. Or, il faut par exemple analyser précisément les transformations du capitalisme, les transformations du capitalisme financier, les transformations du fonctionnement dans l'entreprise, les transformations de la condition salariale. Ce sont toutes ces choses-là qu'il faut analyser précisément. Et je trouve que à suremployer le terme de néolibéralisme, on recouvre toutes les réalités d'un espèce de voile qui prétendant l'expliquer globalement, l'obscurcit précisément.
C'est peut-être pour cette raison que notre président a préféré le terme ultralibéral dans ses vœux au terme néolibéral, puisqu'il a annoncé la fin du capitalisme ultralibéral et financier. Comment faut-il comprendre ce type
de
phrase ?
C'est une déclaration qui reste à expliciter, si je puis dire.
Il a l'année peut-être pour l'expliciter.
Voilà, il a peut-être l'année pour l'expliciter, mais il faudra effectivement donner un contenu à ce jugement lapidaire.
Pierre-Rosan Vallon, j'aimerais prendre un tout petit peu de champ par rapport à peut-être la deuxième focale, la focale plus longue avec vous, pour regarder ce moment que nous traversons. Pour l'historien, pour le chercheur que vous êtes, est-ce que c'est un moment passionnant ou est-ce que c'est un moment impossible à penser parce que trop cacophonique ?
Non, ce n'est pas du tout un moment trop cacophonique. Je dirais que toute l'histoire de la démocratie a aussi été une histoire liée à ses indéterminations. Après tout, que veut dire le peuple souverain ? Que veut dire la représentation ? Comment faire vivre la volonté générale ? Et comment l'exprimer ? Toutes ces questions-là, elles sont au cœur de la définition de la démocratie, mais leur mise en institution, si je puis dire, a toujours été discutée, problématique. La question du référendum, la question de la ratification de la loi par la volonté générale, comme on disait pendant la Révolution française, c'est un débat qui était permanent. Le débat sur les représentants qui trahissent les représentés, il y a un terme qui existe dès le début de la Révolution française, on parlait de la menace de voir les représentants se constituer en nouvelle aristocratie. Donc tout ça, c'était des réalités anciennes, mais on a à certains moments, fait avancer la question, trouver des points d'équilibre. Et là, on est dans un moment de réouverture de toutes ces questions-là. Et donc, c'est ce qui me semble caractériser ce moment actuel, c'est que ressurgissent bien des indéterminations et bien des problèmes de la démocratie aussi, parce que les exigences des citoyens sont devenues plus fortes. Il faut bien voir que pendant très longtemps, la plupart des citoyens, ils ne savaient pas très bien s'exprimer eux-mêmes. Ils avaient l'impression que pour se faire entendre, il fallait qu'ils concèdent la parole à quelqu'un d'autre, qu'ils se trouvent des porte-paroles. Or aujourd'hui, chacun pense qu'il peut porter sa propre parole. Et donc ça fait l'exigence démocratique à redoubler, alors que les perplexités démocratiques persévère, si je puis dire.
La société bouge, les revendications et de façon identique, la vie politique également bouge. On a vu une élection inédite d'un homme qui n'avait jamais été élu, qui n'avait même pas de parti, qui avait un mouvement il y a 20 mois. Est-ce que vous partagez, Pierre-Rosan Vallon, l'avis d'un professeur de sciences politiques qui est Frédéric Savicky, dans un autre entretien très intéressant à AOC Média, qui dit que peut-être l'une des explications de l'immense fragilité à laquelle on assiste aujourd'hui de cette présidence, c'est dû au fait que finalement, on peut gagner une élection sans un parti, mais c'est beaucoup plus difficile de se maintenir au pouvoir sans un parti dit traditionnel, disons.
C'est une analyse qui me paraît très juste, mais on peut même l'élargir et dire que le problème, c'est la contradiction entre les qualités qui font le bon candidat et le candidat qui peut gagner et les qualités qui font le bon gouvernant. Parce qu'après tout, les qualités du bon candidat, c'est la séduction, c'est l'apparence de nouveauté, c'est la capacité d'entraînement, alors que le bon gouvernant, c'est celui qui peut faire avancer la réalité. Et c'est des qualités à la fois humaines et politiques peut-être très différentes. Et ça, c'est une contradiction qui existe depuis longtemps, et très souvent d'ailleurs. Les hommes politiques qui sont placés le plus haut dans l'estime publique sont les hommes politiques qui ont été de mauvais candidats. Regardez Michel Rocard, regardez Pierre Mendès-France. Pour beaucoup, ils illustrent une forme d'idéal, de parole vraie, de rapport authentique à la politique, mais ils ont aussi échoué. Ils n'ont pas été capables d'être des bons candidats et peut-être auraient-ils été des bons gouvernants. Et d'ailleurs, ils l'ont été pendant leur période de pouvoir.
Pierre-Rosan Vallon, ça fait à peu près 40 ans que vous travaillez sur ces questions de la vie politique française, de l'histoire moderne et contemporaine de la France. Est-ce que ce que nous traversons, que l'on qualifie de crise politique, de crise de régime, de crise démocratique, de crise sociale ou autre, est-ce que cette crise donc que nous traversons vient confirmer vos analyses ou est-ce que vous êtes sans arrêt surpris en ce moment par ce qui se passe ?
Il y a une chose qui est surprenante, à laquelle personne n'aurait pensé il y a une vingtaine d'années. C'est le fait de cette montée en puissance partout dans le monde de ce qu'on peut appeler le populisme.
Sur lequel vous travaillez
d'ailleurs actuellement. Sur lequel je travaille actuellement sur cette question-là. Et le populisme, attention, ne le définissons pas simplement comme un régime des passions, comme de la démagogie. Non, pensons le populisme comme une réponse très argumentée, une réponse cohérente aux problèmes démocratiques, aux problèmes économiques et à la vue sociale. Je pense que aujourd'hui, réfléchir le populisme, ce n'est pas simplement dire « regardez la vulgarité de Trump, regardez les emportements de tel ou tel, regardez le langage démagogique », parce qu'après tout, la démagogie, elle peut être partagée par tout le monde. Après tout, les emportements et les passions, ils sont aussi le lot normal de la vie politique. Non, il faut bien voir qu'il y a le populisme et une forme politique. Et c'est ça qui est nouveau. Et je pense que nous n'avons pas encore pris conscience du fait que le populisme était une forme politique qu'il fallait analyser en profondeur et comprendre que c'était l'enjeu qui était devant nous. Parce que le populisme se présente aujourd'hui, de fait, comme la principale réponse aux difficultés du monde contemporain.
Comment penser les choses en temps réel, face à des mouvements qui sont souvent spontanés, la difficulté de penser l'événement en cours, Pierre Rosanvallon?
Eh bien, je crois qu'il faut avoir toujours les oreilles et les yeux ouverts et ne pas plaquer sur la réalité des schémas acquis. Il faut au contraire laisser la réalité nous mener à nous interroger sur nos catégories, sur nos grilles d'analyse. Moi, je vois dans un livre qui s'appelait « La contre-démocratie » que j'ai écrit il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'avais déjà commencé à analyser le populisme. Mais je l'avais analysé simplement, je dirais, comme une forme de contre-démocratie exacerbée, comme une forme de vision nihiliste du politique, ce qui pouvait apparaître à l'époque comme « mais ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui ». Et si j'étais resté, je dirais, sur mon analyse précédente, je ne comprendrais absolument pas ce qui se passe. Le propre de la vie intellectuelle, c'est laisser la complexité et la difficulté de comprendre monter vers soi et en faire son objet de travail, et non pas à chaque fois replaquer ces catégories acquises sur la réalité, surtout dans les moments comme ceux d'aujourd'hui où on voit bien les mutations. Tout de même, le déclin et la disparition des partis politiques traditionnels est quand même un fait historique dans l'histoire des démocraties, parce que les démocraties ont quand même été construites pendant plus d'un siècle sur le face-à-face et la montée en puissance de ces partis. Donc, il ne faut pas le voir simplement comme une période de transition, comme une parenthèse, mais comme véritablement un nouveau moment politique.
L'entrée dans un nouvel âge.
Dans un nouvel âge qui doit apporter aussi, entraîner, une nouvelle forme de conceptualisation de la vie politique, de la démocratie.
Vous parlez de lunettes à chaussée, de nouvelles lunettes à chaussée tout à l'heure. On est en train de construire la monture, hein, manifestement. On ne l'a pas encore complètement trouvée, on est en train de tourner autour. Ouais. Pierre Rosanvallon, vous êtes un intellectuel au sens plein du terme, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui s'engage publiquement, aussi bien par vos travaux que par vos prises de parole, vos collections de livres, La République des idées, vous aviez écrit Le Parlement des Invisibles, Donner à raconter la vie, il y a plusieurs années, où l'on voit finalement, pour ceux qui l'ont lu, tout ce qui se passe d'une certaine façon aujourd'hui. Est-ce que, puisque vous vous êtes beaucoup reçu dans les médias, est-ce que vous avez été invité à l'Élysée ou par le gouvernement à parler? Est-ce que vous savez si, vous parliez du bon gouvernant, vous avez écrit un livre qui s'appelle Le Bon Gouvernement, est-ce que vous savez si vos livres sont lus par les responsables politiques aujourd'hui, ou est-ce que vous êtes complètement navré de voir que personne ne vous écoute, ne vous entend, en dehors de nos auditeurs,
de nous. Je dirais qu'il, au moment où j'ai publié Le Bon Gouvernement, pour prendre ce dernier exemple, c'était avant la campagne électorale, c'est un livre de 2015, et je me souviens qu'Emmanuel Macron, qui était ministre à l'époque, m'avait invité à venir en discuter avec lui, et que des personnes autour de lui m'avaient dit, il m'avait dit, oui, c'est vraiment très intéressant, c'est très éclairant, etc. Et je ne crois pas qu'il en ait fait grand-chose. Cela veut dire quelque chose de très important. C'est que ce que j'ai appris à force, c'est que le rapport entre intellectuel et politique, si ça reste un rapport de conversation, après tout, il n'est pas très utile. Il n'est pas très utile parce qu'on ne peut pas refuser de discuter avec quelqu'un. Mais très souvent, la vie politique est tellement prégnante que le rapport avec un intellectuel, c'est un moment de détente, j'ai l'impression. C'est un moment de détente où on parle d'autre chose que tout le temps les demandes de postes, de revendications, les ennuis. C'est des moments de parenthèse comme quand on discute avec des artistes ou des romanciers. Je pense que si on veut faire avancer les idées, ça n'est pas dans le face-à-face avec des personnalités politiques, c'est quand les idées deviennent des forces matérielles dans la société. Et c'est cela, le but de la vie intellectuelle, c'est d'aider à formuler des approches de la réalité, des concepts, d'introduire des éléments de langage qui sont socialement appropriés. Et c'est parce qu'ils seront socialement appropriés qu'ils peuvent peser sur la réalité, et non pas simplement parce qu'il y a une forme de connivence avec les puissants.